Intervenez.
Au 01 45 24 7000 pour interpeller Thierry Soler, député LR Constructif, dont Bernard Accoyer vient de dire que la démarche n'est pas loyale. Votre procès en loyauté, vous n'avez pas fini de l'entendre sans doute, Thierry Soler, vous et les autres députés qui se disent constructifs à l'Assemblée nationale.
Non mais écoutez, enfin, pardon, moi j'ai dit à mes électeurs exactement ce que je propose aujourd'hui,
et
les électeurs ont choisi.
Il y a vos camarades de parti aussi.
Ouais, mes camarades de parti, je vous dis, pour une partie d'entre eux, ils portent une responsabilité hein, au maintien de François Fillon et à la situation actuelle. Encore une fois, voilà, c'est pas facile, et moi j'aurais été heureux qu'on soit un peu plus nombreux à venir dire à François Fillon, ce début mars dernier, que non, il pouvait pas continuer sa campagne. Et maintenant, voilà ce qui s'est passé. Élimination dès le premier tour, défaite historique de la droite française aux législatives. Alors je veux bien que ceux qui sont aux manettes de tout ça viennent nous expliquer ce qu'on aurait dû faire, mais voilà, c'est eux qui l'ont fait.
Olivier est en ligne au Standard Inter. Bonjour Olivier, bienvenue.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Écoutez, la question vient d'être posée. Hein. Moi, j'ai l'impression que l'espace médiatique est complètement occupé par l'accès au pouvoir. On ne parle pas beaucoup de vivre ensemble, d'organisation de la société. Aujourd'hui, la société me semble très fragmentée et beaucoup de gens sont un peu désabusés par la politique, puisque le seul intérêt de la politique, c'est d'accéder au pouvoir. Et la question que vous venez de poser, celle que j'avais posée au Standard, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être loyal dans l'entreprise et dans l'espace public ?
Merci Olivier. Thierry Soler.
Oui, je reviendrai. Qu'est-ce que c'est qu'un député loyal ? Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que je serais avant tout un député Les Républicains et que je devrais voter à l'Assemblée nationale les décisions d'un bureau politique. Enfin, écoutez, pardon, c'est pas du tout ma vision de la vie démocratique. Et puis, vous savez, moi, je suis un député de droite. Notre parti, c'est historiquement le parti gaulliste. Et au moment où la France va pas bien, j'entends des gens qui se disent gaullistes, qui viennent nous expliquer qu'au fond, il faut privilégier des petites logiques de boutique d'appareil plutôt que d'essayer de faire que ça fonctionne. Le président de la République, il a nommé Édouard Philippe Premier ministre. C'est un fait sans précédent. C'est quelqu'un qui n'est pas de sa formation politique. Encore une fois, moi, la seule loyauté que j'ai, c'est à l'endroit de mes électeurs, à l'endroit de mes idées. Et vraiment, je veux aider à ce que toutes les mesures qui vont dans le bon sens puissent être mises en œuvre. Par contre, je m'opposerai hein, quand ça n'ira pas, et je le dirai. Et je pense d'ailleurs que je serais plus crédible que si je suis sur les bancs à hurler, surtout tout le temps, même quand au fond, je suis d'accord.
Thomas Deloye, justement, à propos d'idées et de positionnement à droite. Bonjour Thomas.
Bonjour. Bonjour Monsieur Soler.
Bonjour.
Alors moi j'ai une question. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de sortir de ce dogmatisme « je suis à droite » pour intégrer directement La République En Marche ?
Ouais, d'abord, dogmatisme, moi j'essaie de pas m'enfermer trop dans les dogmes. Hein, voilà. Être de droite, pour moi, ça veut dire privilégier la liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est très très important. La République En Marche, c'est le parti du président de la République. J'ai pas besoin de changer de parti politique pour expliquer les valeurs qui sont les miennes.
Président qui répète depuis des mois que ce clivage est dépassé.
Il est de gauche et de droite, le président de la République. Moi, je suis de droite et du centre. Voilà. Écoutez, je vais essayer à l'Assemblée nationale de porter ces valeurs-là. Mais ça veut pas dire, vous voyez, venir sur les micros pour vous dire que tout ce qui va être fait est mauvais, surtout quand c'est bien.
Oui. Mais enfin, vous voyez bien que votre démarche contribue à effacer, du moins à atténuer, en tout cas, ce clivage.
Mais tant mieux, ces barrières depuis 30 ans, ces postures politiques depuis 30 ans, elles nous ont amené quoi ? Elles nous ont amené du chômage de masse, de la pauvreté. J'entendais les chiffres tout à l'heure dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que, moi, je vous dis, le seul critère pour moi, à mes yeux, qui va être important, c'est est-ce que dans 5 ans, ça va mieux ? Et après, on a bien le temps de savoir quels seront les candidats à la présidentielle 2022. Je ne suis pas persuadé que ça passionne tout le monde.
Pierre nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Patrick, bonjour Monsieur Soler.
Bonjour.
J'ai entendu dire tout à l'heure Monsieur Soler que s'il y avait eu au second tour un duel entre le FN et Jean-Luc Mélenchon, c'était une catastrophe démocratique. Je voulais savoir s'il pouvait préciser, ce que je ne comprends pas très bien le sens de son propos. Le FN est peut-être pas très démocratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une sensibilité des Français. Jean-Luc Mélenchon, il a plein d'idées nouvelles, et je pense que c'est important d'avoir des idées nouvelles, une sorte d'effervescence comme ça, de l'esprit. Le pouvoir en place, jusqu'à présent, depuis 30-40 ans, ressemblait plus à des gestionnaires que des gens qui avaient des idées. Enfin, c'était l'impression que j'avais eue. Voilà. Merci.
Bon, à mes yeux, catastrophe démocratique, ça veut dire quoi? Si c'est les deux extrêmes dans le pays qui sont les deux seuls à être qualifiés au second tour de l'élection présidentielle, ça aurait été le choix des Français. Mais pour moi, je pense que, et donc bien sûr, je l'aurais respecté. Mais ça veut dire quoi à mes yeux? Ça voudrait dire qu'on en serait arrivé à quelque chose où une immense majorité de Français ne se serait tellement pas reconnue, et puis le résultat, me semble-t-il, aurait été dangereux. Je ne n'enlève pas Jean-Luc Mélenchon d'être un homme qui a parfois des grandes idées, qui porte des convictions. Je peux en partager certaines, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut pour le pays. Et encore une fois, maintenant, il y a à l'Assemblée nationale un groupe de la France insoumise. Je trouve ça sain. Je suis d'ailleurs moi-même parmi ceux à droite qui pensent qu'il y a un problème dans le mode de scrutin. Objectivement, l'instauration d'une dose de proportionnelle, ça permettrait, voilà, aux formations politiques, aux idées politiques d'être peut-être mieux représentées. Donc moi, je m'opposerai pas à cela. Maintenant, vous savez, au fond, dans la différence de ce qu'on pense les uns les autres, je pense qu'il y a un truc qui doit tous nous rassembler, c'est qu'il faut qu'on ait des avancées. Des avancées sur les deux, trois grands sujets qui sont importants, qui est moins de chômage, moins de pauvreté, et plus de sécurité dans notre pays. Pas d'un état sécuritariste qui Big Brother, mais voilà, une sécurité au quotidien qui marche mieux, une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme, et puis surtout une activité économique qui permette d'avoir moins de familles frappées par le chômage.
Je dois dire, dans la foulée de l'intervention de Pierre, que votre petite phrase du début d'interview sur la catastrophe démocratique aurait été, selon vous, un second tour Le Pen-Mélenchon provoque beaucoup de réactions, d'interrogations et aussi de réactions indignées au standard, puisque l'idée de catastrophe démocratique laisse entendre que l'élection ou l'arrivée au second tour de Jean-Luc Mélenchon aurait été un danger pour la démocratie, ce que contestent beaucoup d'auditeurs au standard.
Pour préciser en deux secondes, alors peut-être un peu mieux, ce que j'ai dit, en quoi pour moi ça aurait été une catastrophe, parce que encore une fois, quand il n'y a que les extrêmes qui sont représentés, bah, par nature, on est dans un schéma où il y a quelqu'un qui porte des idées extrêmes, qui va être élu président de la République, et je crois qu'aujourd'hui c'est pas ça dont la France a besoin. La France, elle a besoin de réformes profondes qui n'ont pas été faites depuis 20 ans. Ça, je partage ça avec la question de l'auditeur actuel, et c'est pour ça que maintenant il faut essayer de s'y mettre. Jean-Luc Mélenchon va apporter sa voix, son groupe, de toute évidence, des choses au Parlement. Je pense que le gouvernement devra écouter ce qui est dit sur ces bancs-là.
Jean-Henri de Poitiers vous demande directement si on vous a promis un poste. Avez-vous, oui ou non, dit-il, un poste en vue que pourrait vous accorder le nouveau pouvoir?
En rien, non. Moi, la seule fonction auquel j'ai aspiré, c'est d'être élu député à Boulogne-Billancourt. Et encore une fois, j'ai été entendu par mes électeurs. Et c'est ça qui me satisfait. Je vais essayer maintenant de faire mon travail au Parlement et d'essayer, encore une fois, d'avoir des avancées dans le mode de fonctionnement.
Question d'Amid de Paris sur la levée de l'immunité parlementaire des députés. Il fait le lien avec la loi sur la moralisation de la vie publique, mais qui a été rebaptisée loi de confiance, hein, c'est ça, de rétablissement de la confiance. Alors, il n'y fait pas allusion, mais je vous pose la question sur la désignation, la sortie de Richard Ferrand du gouvernement et sa désignation par le président de la République comme ayant vocation à diriger le futur groupe majoritaire. Qu'en pensez-vous?
Deux choses. Sur l'immunité parlementaire, on connaît tous l'origine de cette disposition, hein, qui était de pas faire que les gouvernements, il y a longtemps, harcèlent les parlementaires par l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, c'est vraiment, à mon avis, une pratique d'un autre âge. D'ailleurs, elle est levée dès qu'un juge d'instruction le demande. Donc, au fond, ça n'existe plus vraiment. Et c'est ça ainsi. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'immunité parlementaire pour les députés.
J'ai pas l'historique, mais elle est systématiquement, elle est toujours levée Parlement français. Il n'y a pas eu de blocage.
En tout cas, à l'Assemblée nationale.
C'est le bureau de l'Assemblée qui vote.
C'est le bureau de l'Assemblée
qui vote. Et il faut préciser que l'immunité n'empêche pas un juge d'entendre un député, éventuellement de le mettre en examen. Ça empêche simplement la garde à vue et les mesures coercitives.
Voilà. Et au fond, si un juge d'instruction demande, encore une fois, la levée de l'immunité parlementaire, le bureau de l'Assemblée nationale, et c'est très sain, le donne, bien sûr. Et donc, au fond, ça ne sert pas à grand-chose, vous voyez, cette affaire. Deuxièmement, sur la situation de Richard Ferrand, ben oui, écoutez, j'ai vu qu'il avait quitté le gouvernement. Je comprends qu'il va être candidat à la présidence du groupe majoritaire En Marche à l'Assemblée. C'est aux parlementaires En Marche. Moi, je suis respectueux du Parlement et leur légitimité. de leur décision de désigner leur président de groupe. Et ensuite, s'il est élu président de groupe, il sera bien sûr légitime dans cela. Après, pour le reste, il est comme tout un chacun, justiciable comme les autres, ni au-dessus des lois, ni en dessous, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes obligations.
Pour l'instant, c'est une enquête préliminaire qui le vise. Il n'y a pas d'informations judiciaires. Il n'est pas poursuivi. Il n'y a pas de juge désigné. Thomas Legrand.
Vous êtes parlementaire. Vous dites que vous voulez être député et donc vous êtes attaché au Parlement. Comment vous jugez simplement cette pratique, peut-être de l'ancien monde, puisque maintenant on est dans l'ancien monde et le nouveau monde, d'un président qui désigne comme ça quelqu'un qui aurait vocation à être président de groupe? C'est quelque chose de... Normalement, c'est une attribution des parlementaires. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette mainmise de l'exécutif sur le législatif qui se manifeste?
Le président d'un groupe parlementaire, il est élu par les parlementaires. Croyez-moi, ça va se passer comme ça, dans le groupe En Marche, dans le groupe de la France Insoumise, à droite, au centre-droit. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il y a le poids des institutions, et Emmanuel Macron est le président de la République. C'est lui qui a initié ce mouvement En Marche. Et je me doute bien que tout ça se fait en coordination avec lui. Hein, voilà.
Marc de Nice voudrait savoir, Thierry Solaire, si vous êtes pour l'augmentation de la CSG, qui est une des mesures économiques sur laquelle Emmanuel Macron a fait campagne.
Oui, si je suis... Alors, je vais essayer d'illustrer, Patrick Cohen, ce que c'est d'être constructif.
Oui.
si je suis démagogue,
je vous remercie.
Je viens vous dire, mais non, je suis contre toutes les hausses d'impôts. C'est facile. Je suis sûr que les gens qui sont derrière le micro, ils en payent trop, il y a eu des augmentations dans tous les sens et qu'ils préféraient que ça baisse.
François Baroin et la plupart de vos collègues LR ont fait campagne contre le choc fiscal attendu.
D'accord. Le projet d'arme de François Fillon, c'était une augmentation très forte de la TVA.
Oui, mais il a changé.
Oui, d'accord. Bon, vous voyez tout ça, j'essaye moi d'être constructif et honnête. Bon. Deux, la CSG, la hausse de la CSG, elle me semble ne pas poser de problème pour les salariés, puisqu'ils vont bénéficier d'une baisse de leur cotisation salariale, donc au fond, à la fin du mois, plus sur la feuille de paye, une augmentation de la CSG qui compense, pas de perte pour le salarié. La difficulté, elle est pour une partie des retraités, pas tous, il y a une partie des retraités qui vont avoir la suppression de la taxe d'habitation, et donc au fond, une hausse de la CSG, mais s'il n'y a plus de taxe d'habitation à payer, vous savez, c'est poche gauche, poche droite, c'est la même, ça peut aller. Là où il y a difficulté, d'ailleurs je l'ai dit à Gérald Darmanin et au Premier ministre, c'est sur la catégorie des retraités qui ont quand même des toutes petites retraites, mais qui payent encore de l'impôt sur le revenu, même faiblement, donc ils payent de la taxe d'habitation, et ceux qui n'auront pas la suppression de la taxe d'habitation, c'est une perte de pouvoir d'achat importante. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde d'une manière pragmatique comment on peut faire sur cette catégorie. Voilà. Et puis la seconde catégorie, c'est les professions libérales, parce que comme ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de charge salariale et donc ils vont avoir qu'une hausse de la CSG. Je crois que le gouvernement a conscience de cela et est très ouvert au fond à essayer de trouver comment on peut corriger sur ces deux catégories de Français le côté négatif de la hausse de la CSG.
Et au pilotage de tout cela, il y a celui que vous souteniez pour la primaire, mais enfin vous le souteniez en sous-main puisque vous étiez chargé de l'organisation de la primaire, Bruno Le Maire. Oui. Non, mais c'est Bruno Le Maire dont vous étiez le plus proche.
Oui,
voilà, absolument, qui est ministre de l'économie.
Ministre de l'économie.
Et qui était farouchement opposé à toute hausse de la CSG. Question d'Olivier Duvar.
Petit sourire de Solaire pour ceux qui n'ont pas les images, c'est-à-dire nos auditeurs.
Oui, c'était une remarque et ça n'appelait pas forcément de réponse ou de commentaire. Quand est-ce que les députés, vous demande Olivier Duvar, vont voter une loi qui va modifier leur régime de retraite, que Olivier juge régime hallucinant par rapport au reste des Français?
Alors, je pense qu'il y a la vie dure sur l'antiparlementarisme, je crois que ça a déjà été fait en fait. Je crois qu'il n'y a plus de régime de retraite particulier pour les députés. Il y a eu pendant longtemps. Je crois que c'est fini. En tout cas, moi, je vous le dis clairement, je ne demande pas avoir un régime de retraite différent des autres. Hein, vous savez, mais je crois que c'est fini.
Ça a été modifié, mais ça reste quand même particulier.
Avant, il y avait un truc un peu scandaleux, c'était qu'on pouvait cotiser deux fois. C'est-à-dire, en gros, vous étiez 5 ans député, vous pouviez cotiser comme si vous aviez fait 10 ans. Ça n'existe pas, ça. Bon, et ça a été enlevé. Donc aujourd'hui, il y a un système de retraite assez classique, au fond, où vous avez... vous avez des droits acquis en fonction d'un âge de départ à la retraite comme les autres. Je crois que c'est vraiment fini, il n'y a plus de différence. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet qui ont été vraies mais qui ne le sont plus.
Sur l'antiparlementarisme, c'est évident. Thierry Solaire, vous restez avec nous, on va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Alex Vizorek.